Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Cela fait un an, ce 11 mai, la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh était abattue d'une balle dans la tête par un tir israélien. Un chef militaire du djihad islamique a été tué dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza. 25 Palestiniens sont morts dans des raids israéliens en l'espace de 2 jours. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête au surlendemain de l'attaque meurtrière commise à Djerba en Tunisie, en marge du pèlerinage annuel de la Griba. Parmi les 5 personnes tuées figure un franco-tunisien. L'unité nationale en Tunisie. Après cette attaque, notre invité sera le secrétaire général d'État cathol, Kamel Gargouri. L'association Dignité Internationale au secours des sinistrés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en février dernier. Nous écouterons le président de cette ONG, Waïd Abbassi. Après l'incendie de son domicile, le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez, a démissionné. Sa commune, dans laquelle l'État veut déplacer un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école, vit d'importantes tensions depuis plusieurs mois. Cela fait un an, la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh était abattue le 11 mai dernier d'une balle dans la tête par un tir israélien. Elle couvrait pour Al Jazeera une incursion israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lorsqu'elle a été tuée. Un musée au nom de Shirin Abu Akleh va ouvrir près des bureaux d'Al Jazeera à Palestine, où la journaliste travaillait avant d'être tuée. Et un rassemblement pour lui rendre hommage et demander justice a eu lieu ce jeudi après-midi, place du Trocadéro à Paris, une initiative du bureau parisien d'Al Jazeera. Un chef militaire du djihad islamique a été tué dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza. Une frappe sur le haut d'un immeuble de Khan Younes. 25 Palestiniens sont morts dans des raids en l'espace de 2 jours. L'ONU exprime son inquiétude. Washington appelle à la désescalade. L'Égypte tente de convaincre Israël et les groupes armés palestiniens d'accepter un cessez-le-feu. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête au surlendemain de l'attaque meurtrière commise à Djerba en marge du pèlerinage annuel de la Griba. Parmi les 5 personnes tuées figure un franco-tunisien. Le ministère tunisien des Affaires étrangères estime que cette attaque contre des innocents ne fera que renforcer l'unité et la détermination du pays à poursuivre sa lutte implacable contre toutes sortes de crimes et défaire ceux qui les soutiennent. Le secrétaire général d'État cathol, Kamel Gargouri, souligne l'unité nationale en Tunisie suite à ce drame.
La Tunisie, malgré ses actes isolés, reste un pays pacifique et tolérant où les différentes communautés et religions peuvent vivre, notamment à Djerba où il y a vraiment une mixité très importante et qui ne suscite pas de problèmes particuliers. Bon, il y a eu cet acte isolé, il y a eu qui est meurtrier, où il y a du sang qui a coulé, essentiellement du sang de Tunisiens et de membres de forces de l'ordre. Donc on ne peut que déplorer cette situation et avoir une émotion très forte parce que tous ces actes-là sont vraiment impactants pour tous les Tunisiens et je pense que toutes les amis de la Tunisie aussi.
Cette attaque intervient à l'approche de la saison touristique. Vous souhaitez adresser un message aux personnes qui souhaitent se rendre en Tunisie et notamment à Djerba?
Oui, bon, le message est clair. Bon, malheureusement, il y a toujours un focus qui est mis sur ce type d'action, mais ça reste toujours un acte isolé. La Tunisie n'est pas un pays en guerre, on a beaucoup de problèmes, mais pas de problèmes de ce type-là. Il y a eu cette attaque-là, comme elle aurait pu être commise n'importe où en Tunisie ou ailleurs dans le monde. Donc, la Tunisie reste toujours un pays d'accueil. Le tourisme est important, et notamment à l'île de Djerba, où beaucoup de touristes tunisiens et étrangers viennent et jouissent d'un séjour en général très positif. Donc, il n'y a pas à dire que ce n'est qu'un acte isolé, que la réaction des forces sécuritaires a été bonne, que maintenant, ils vont certainement sécuriser un peu plus, mettre en place des plans un peu plus rigoureux, comme ça se passe toujours quand on a ce genre d'attaque. Mais sinon, il n'y a pas eu de problème et il n'y a pas de problème particulier à part cette attaque-là, qui est en soi un problème énorme parce que il faut pas oublier qu'il y a des vies qui sont tombées, que c'est un drame important et que ça ne peut qu'impacter tout le monde, mais en même temps faire en sorte que tout le monde devienne encore plus vigilant. Et les Tunisiens ont montré une solidarité malgré les divisions qui peuvent être sur les sujets politiques ou autres, mais ils ont montré une solidarité face à ces attaques-là exemplaires. Et par exemple, l'attaque de Ben Gaden, où la population et les forces de l'ordre étaient main dans la main pour faire face à ça, et c'était une attaque beaucoup plus importante que celle-là. Donc maintenant, tout le monde va être vigilant, tout le monde va jouer son rôle pour que ce genre de situation ne se répète pas.
Il y a une unité nationale aujourd'hui en Tunisie suite à cette attaque.
Oui, il y a toujours une unité nationale suite à ce type d'attaque. On l'a toujours vécu, quelles que soient les divisions politiques qui existent. Bon, moi, je suis dans l'opposition, mais je suis solidaire et je suis derrière les forces de l'ordre tunisien et tout l'appareil d'État tunisien pour faire face à ça, à ce type de drame. Il ne faut pas non plus que ça devienne un motif de, entre guillemets, de marchandage politique. Il y a une réelle unité nationale. Personne ne veut de ce type d'attaque et de ce type de situation en Tunisie, quel que soit son bord. Après, les autres sujets de discorde sont toujours là, mais ce sujet-là n'est pas un sujet de discorde.
L'île de Djerba qui a accueilli en novembre dernier le sommet international de la francophonie, il s'agissait notamment de faire revenir les touristes en Tunisie à travers l'organisation d'un tel sommet.
Oui, et d'après les chiffres qui ont été annoncés par l'Office du tourisme, par les différents opérateurs, c'était une saison qui est bien partie. Et qu'il y avait un retour de tourisme après le Covid et les crises qu'on vit, après le problème d'attentats terroristes, il y a eu une reprise réelle. On espère que l'impact de cette attaque-là soit minimal. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un acte isolé, ça s'est passé, mais par ailleurs, tout le reste est vraiment très sûr, il n'y a pas... La vie quotidienne se déroule d'une manière normale. Les gens travaillent, vont faire leurs courses, les hôtels travaillent, les restaurants et tout ça. Donc il n'y a pas un réel problème au niveau de la société, il n'y a pas une panique, il n'y a pas quelque chose, là, je vous parle de Tunisie, il n'y a rien, je suis en train de travailler, et il n'y a aucun problème. Bon, après, c'est vrai que ça ne peut qu'impacter, surtout un touriste veut aller se reposer, il ne veut pas être sur les mers. Mais il n'y a vraiment aucune raison pour être sur les nerfs quand on est à l'intérieur ici, comme les actes qui se passent, les actes ponctuels. C'est pas parce qu'il y a eu une attaque au Bataclan, par exemple, et c'était dramatique aussi, que la Paris est devenue, ou la France, sont devenus des pays pas sûrs du tout. Donc, c'est les situations qu'on vit, et on espère toujours qu'il y ait une solidarité internationale face à ce type d'attaques et à leur donner leur réelle dimension, ne pas les exagérer, parce que ça, c'est là justement le but recherché par des terroristes, c'est d'impacter la vie quotidienne, l'économie des pays qui sont attaqués.
Comment avez-vous apprécié les différentes réactions internationales, notamment celle de Paris qui fait part de son soutien à la Tunisie?
Oui, bon, c'est ce qu'on s'attend à ça. C'est une réaction normale entre deux pays amis. C'est qu'on se soutienne dans ce type d'attaque et dans ce type de situation. Donc on apprécie la réaction d'un pays ami en tant qu'un pays ami. Voilà, on ne va pas relier l'amitié entre nos deux pays ou dire que voilà, c'est un acte politique. Non, c'est une réaction d'un pays ami face à un pays ami qui fait face à une situation grave.
Le secrétaire général d'État Katol, Kamel Gargouri. La planète comptait en 2022 plus de 71 millions de déplacés internes, une hausse de 20% par rapport à l'année précédente, une augmentation liée aux exodes massifs après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi aux inondations catastrophiques au Pakistan. Le nombre de déplacés internes devrait encore augmenter cette année. Au Soudan, les combats depuis la mi-avril ont déjà forcé plus de 700 000 personnes à fuir ailleurs dans le pays. Le groupe État islamique a revendiqué un attentat à la bombe perpétré ce mercredi contre un commissariat Damas, une attaque qui a tué un officier et blessé 4 autres policiers. C'est la première fois depuis octobre 2022 que Daesh revendique un attentat dans la capitale syrienne. La préparation de la COP28 aux Émirats Arabes Unis au mois de novembre prochain, elle est au menu de la rencontre ce jeudi soir entre Emmanuel Macron et le président des Émirats au palais de l'Élysée. L'association Dignité Internationale au secours des sinistrés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. En Turquie notamment, l'aide passe par des ONG internationales qui restent sur le terrain. Waïd Abbasi, président de Dignité Internationale.
Au fait, depuis le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, nous avons marqué une présence importante sur le terrain. Sur le plan médical, l'acheminement des abris, donc des tentes communautaires, l'aide alimentaire, d'hygiène. Et nous continuons à faire ce travail de secours et d'aide d'urgence, puisque Dignité Internationale a positionné son action dans l'urgence et le post-urgence. Nous avons clôturé cette première étape qui est l'urgence avec ma mission humanitaire. Nous sommes partis en délégation de 4 personnes, membres de Dignité Internationale, justement pour continuer ce travail qui a été entamé juste après le séisme et superviser une grande aide alimentaire à destination des populations sinistrées dans les zones du sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Nous avons bien entendu un travail de coordination avec la FAD, l'organisme gouvernemental qui supervise l'aide humanitaire pendant les crises et les catastrophes naturelles en Turquie, et avec d'autres partenaires locaux. Et dans ce contexte-là, nous avons élaboré ou réalisé la distribution d'environ plus de 4000 colis alimentaires pour les familles sinistrées composées de 5 à 6 personnes pendant un mois, donc en Turquie et dans le nord de la Syrie.
De quoi ont besoin aujourd'hui les sinistrés ?
Beaucoup de choses, énormément de choses, parce que tout simplement, en visitant les lieux touchés par ce grand séisme, nous avons constaté, vous savez, des fois les médias parlent, bien sûr, diffusent des images, des vidéos, etc. Mais vivre la chose, c'est autre chose. C'est juste incroyable. Donc des villes comme la ville Hatay, ravagées, rasées entièrement, à reconstruire de nouveau. Nous avons constaté que les sinistrés ont tout perdu, leurs biens, leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux, leur travail et même leurs membres de famille et tout simplement leur dignité. Et donc, Dignité Internationale, à travers ses missions, à travers ses membres, nous constatons qu'il y a un besoin énorme dans le domaine de l'habitat, donc des tentes pour l'instant, parce qu'il faut de temps pour reconstruire, soit des tentes, soit des bungalows des préfabriqués. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc l'aide alimentaire, l'aide médicale, Dignité Internationale, de par ses médecins, nous avons déjà fait une première aide médicale à travers nos 5 médecins mobilisés juste après le séisme. Mais je pense qu'il y a un travail pour soutenir les structures existantes des hôpitaux et des cliniques, parce que tout simplement, moi j'ai rencontré des médecins, des cadres gérants de ces structures. Ils ont besoin de matériel médical, ils ont besoin aussi de médicaments, ils ont besoin de, j'allais dire, même des médecins pour renforcer le staff sur place. L'habitation, donc l'aide médicale et bien sûr l'aide alimentaire, l'aide d'hygiène. Mais là, je profite de l'occasion pour lancer un appel, parce que généralement on est mobilisé quand il y a une catastrophe naturelle, mais après cette catastrophe, elle devient oubliée, parce qu'on ne parle plus de ça. Mais l'enjeu actuel, c'est de participer à la réhabilitation. Et Dignité Internationale veut s'inscrire dans cette deuxième étape qui est la reconstruction des habitations, des écoles, des hôpitaux, j'allais dire, et renforcer l'existant. Je salue le travail effectué par l'État turc et tous les acteurs sur place. C'est un travail gigantesque, mais les besoins dépassent largement les moyens. Et c'est pour cela que je lance cet appel à la solidarité. On continue à aider ces populations sinistrées. bien sûr en respectant la souveraineté, le cadre légal dans ce pays, là où il y a le séisme. Vous savez, le diamètre de ce séisme, c'est 150 km de Marrakech en Turquie vers Alep. C'est plus de 150 km, c'est juste énorme.
Et donc cette solidarité, elle doit s'exprimer aujourd'hui sur le long terme.
Exactement. Le président de la République en Turquie a annoncé donc son plan pour la reconstruction, donc pendant au moins un an et demi. Mais je pense, selon nos constatations, nos évaluations des besoins, il faut inscrire effectivement cet élan de solidarité, au moins à moyen terme, pour aider tous ces efforts déployés pour justement venir en aide aux sinistrés, parce que tout simplement, ils ont perdu leur dignité. Vous savez, quand quelqu'un perd son domicile, son emploi, l'école, etc. C'est juste incroyable, c'est insoutenable. Les gens, ils étaient malgré tout ça sereins, dans le sens calme, mais j'ai constaté un certain... Ils sont impactés au fond de leur personnalité, leur vie, par cette catastrophe, vous l'imaginez. Bien sûr, on était auprès de ces populations, on a parlé avec eux, ils sont dans la dignité, mais franchement, ils sont dans le besoin, ils le méritent. Ils méritent d'être soutenus pendant cette crise, cette catastrophe naturelle.
Waïd Abbassi, président de Dignité Internationale, il répondait à Loïc Barrière. Après l'incendie de son domicile, le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, Yannick Morez, a démissionné. Sa commune, dans laquelle l'État veut déplacer un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école, vit d'importantes tensions depuis plusieurs mois. Fin avril, entre 150 et 200 opposants au centre d'accueil de demandeurs d'asile avaient manifesté devant la mairie. L'élu d'hiver droite, Yannick Morez, a déploré un manque de soutien de l'État. Emmanuel Macron a réagi à la mi-journée en faisant part de sa solidarité avec Yannick Morez et en dénonçant des attaques indignes. La France bat encore des records de surpopulation carcérale. Le taux d'occupation dans les prisons en avril était de 142,2% avec 73 080 détenus pour 60 899 places. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau, dénonce, dit-elle, l'inertie coupable de l'État qui détourne le regard alors que les maisons d'arrêt débordent. La surpopulation carcérale, c'est justement le thème de votre émission. Et si on en parlait à 19h et 23h, les invités d'Alexis Bachelet, Prune Missoff, responsable analyse et plaidoyer à l'Observatoire international des prisons, et Driss Aït Youssef, docteur en droit public, expert des questions de sécurité. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.